Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du 14 janvier 2025. En direct de Washington, Rosine Monezero. Pour commencer, les titres. Plus de 31 000 migrants ont été expulsés d'Algérie vers le Niger voisin en 2024. La ville soudanaise de Port-Soudan, capitale provisoire du pays, était privée d'électricité hier suite à une attaque de drones. En Afrique du Sud, les sauveteurs ont sorti hier 7 mineurs clandestins et au moins 4 corps d'une mine d'or abandonnée. Le président Joe Biden a assuré hier lundi que les États-Unis étaient en tête dans la compétition internationale grâce à son action. Et dans notre partie magazine, les débats sont vifs au Cameroun dans la perspective de la tenue cette année de l'élection présidentielle. Pour en parler, John Lyndon a joint à Yaoundé Jean-Simon Ongolo, membre du comité central du parti au pouvoir.
Nous devons faire une construction politique, nous devons lancer des passerelles, discuter avec les uns et les autres pour faire en sorte que cette élection nous fasse sortir de l'obscurité à la lumière.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au moins 31 404 migrants ont été expulsés d'Algérie vers le Niger voisin en 2024. Un chiffre record selon l'ONG nigérienne Alarme Faune Sahara qui a dénoncé hier les traitements violents, voire mortels à leur rencontre. Le point avec Eddy Sango.
Alarme Faune Sahara, qui porte secours des migrants dans le désert entre les deux pays, estime que le nombre de personnes expulsées par Alger en 2024 dépasse tous les chiffres documentés des années précédentes, y compris celui de 2023, avec 26 031 refoulés. En septembre, le responsable de la communication de l'ONG, Mokhtar Danyaï, a expliqué à l'AFP que les migrants ont été arrêtés lors des rafles en ville, au niveau de leur maison, de leur lieu de travail ou à la frontière tunisienne, puis regroupés à Taman Rasset, sud algérien, avant d'être acheminés dans des camions vers le Niger. D'autres vagues d'expulsion ont eu lieu avant. En avril, les autorités nigériennes ont convoqué l'ambassadeur d'Algérie pour protester contre les caractères violents de ces opérations de rapatriement et de refoulement. À son tour, Alger a convoqué l'ambassadeur du Niger, tout en jugeant sans fondement les allégations des autorités nigériennes. En novembre 2023, le nouveau régime militaire nigérien, arrivé au pouvoir par un coup d'État quelques mois plus tôt, a abrogé une loi de 2015 criminalisant les trafics des migrants. Depuis, de nombreuses personnes se déplacent librement sur les routes de la migration, sans craindre les représailles qu'elles encouraient avant, indique Alarme Faune Sahara.
Des milliers de personnes fuient une ville dans le sud du Soudan en raison des affrontements selon l'ONU. En cinq jours, entre 1 000 et 3 000 ménages ont été déplacés de la ville d'Oum Rawaba, la deuxième ville la plus importante du Kordofan Nord. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, des affrontements ont éclaté la semaine dernière entre l'armée et les FSR au moment où l'armée avançait vers l'État d'Al Jazeera. Au centre du Soudan, au Kordofan Nord, plus de 205 000 personnes sont actuellement déplacées, selon les derniers chiffres de l'ONU. Un leader de l'opposition aux Comores, Daoud Abdallah Mohamed, a indiqué lundi qu'il rejetait d'ores et déjà les résultats de la commission électorale au lendemain du premier tour des élections législatives, boycottées par une grande partie de l'opposition. L'opposition avait en grande partie refusé de participer, redoutant un manque de transparence dans ce scrutin à deux tours pour élire 33 députés dans cet archipel de l'océan Indien. La commission électorale insulaire indépendante a déclaré élu dès le premier tour les 12 candidats de la principale formation au pouvoir, la Convention pour le renouveau des Comores du président Azali Assoumani. La ville soudanaise de Port-Soudan, capitale provisoire du pays, était privée d'électricité hier suite à une attaque de drones attribuée aux paramilitaires contre le barrage hydroélectrique de Meroé du nord du Soudan, une importante source d'énergie du pays. Plus d'infos avec Nani Talani.
Dans un communiqué, l'armée soudanaise, en guerre contre les paramilitaires des FSR, a condamné l'attaque, dénonçant une campagne systématique contre des sites militaires, des institutions vitales et des projets de développement du pays. Elle ajoute que le barrage de Meroé, à environ 350 km au nord de Khartoum, a été touché par des drones explosifs auxquels les défenses terrestres ont répondu. L'armée fait état de dégâts qui seront réparés. Les médias locaux ont rapporté des coupures de courant dans les villes d'Atbara, Dongola et Amdurman, villes jumelles de Khartoum, contrôlées par l'armée. Les FSR n'ont pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire. L'attaque intervient deux jours après que l'armée soudanaise a repris Ouad Madani, la capitale de l'État d'Al-Jazeera, après plus d'un an de contrôle paramilitaire. La ville de Port-Soudan, située dans l'est du pays, sur la mer Rouge, est devenue, en raison de la guerre, le siège du gouvernement sous l'autorité du commandant de l'armée, Abdel Fattah al-Burhan, dirigeant de facto du pays.
Plusieurs combattants de l'État islamique ont été tués lundi dans le cadre d'une vaste opération des forces de sécurité dans la région semi-autonome du Puntland, dans le nord de la Somalie, ont déclaré des responsables militaires. L'État islamique a une présence relativement faible en Somalie par rapport au Shebab, affilié à Al-Qaïda, mais l'ONU a mis en garde l'année dernière contre un renforcement des affiliés de l'État islamique dans le pays. Les combats de lundi à proximité d'Almis sont les premiers rapportés par l'armée liés à cette opération lancée plus tôt ce mois-ci. En Afrique du Sud, les sauveteurs ont sorti hier 7 mineurs clandestins et au moins 4 corps d'une mine d'or abandonnée. Des centaines de personnes se trouvent encore sous terre et beaucoup sont mortes. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Une société professionnelle de sauvetage a envoyé une grande cage pour récupérer les hommes sous terre sur le site près de Stilfontein, à environ 140 km au sud-ouest de Johannesburg. Nous pouvons vous confirmer que la machine fonctionne, elle a ramené 7 personnes, a déclaré Mzoukissi Djam, représentant de la municipalité. L'opération de lundi fait suite à une saga de plusieurs semaines dans le puits abandonné où les autorités ont été accusées d'essayer de forcer les mineurs à remonter à la surface en réduisant les réserves de nourriture et d'eau qui leur ont été apportées par la communauté environnante. On ne sait pas combien de personnes se trouvent dans le puits. Mi-novembre, certains ont affirmé que jusqu'à 4000 personnes se trouvaient sous terre, mais la police a déclaré qu'il s'agissait probablement de quelques centaines de personnes. 6 corps ont été remontés de la mine début décembre et 1 en novembre. Des milliers de mineurs illégaux, souvent originaires d'autres pays, opéreraient dans des puits de mines abandonnés en Afrique du Sud. Connus localement sous le nom de Zama Zama, entendez ceux qui essaient, en langue zoulou, les mineurs frustrent les compagnies minières et sont accusés de criminalité par les habitants.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président français Emmanuel Macron recevra jeudi son homologue angolais João Lourenço pour renforcer les liens bilatéraux entre les deux pays et faire le point sur les grands sujets régionaux et internationaux, a annoncé l'Élysée lundi. Les précisions de John Lyndon.
Cette visite d'État du président angolais s'inscrit dans la volonté de renforcement des liens politiques, culturels et économiques entre la France et l'Angola, a précisé la présidence française. Les deux présidents échangeront également sur plusieurs grands sujets régionaux et internationaux, alors que le président Lourenço s'apprête à prendre la présidence de l'Union africaine en février, a-t-elle ajouté. João Lourenço est également le médiateur désigné de l'Union africaine dans le conflit entre Kigali et Kinshasa. Depuis novembre 2021, le mouvement M23, groupe armé soutenu par le Rwanda, s'est emparé de vastes pans de territoire dans l'est de la République démocratique du Congo. Une région riche en ressources naturelles et déchirée depuis 30 ans par des conflits. En décembre, les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame devaient se rencontrer à Luanda à son initiative pour des pourparlers de paix, mais les deux parties n'ont pas réussi à s'accorder sur les termes, aboutissant à l'annulation en dernière minute du sommet.
Le président Joe Biden a assuré hier lundi que les États-Unis étaient en tête dans la compétition internationale grâce à son action. C'est dans un discours bilan de politique étrangère où il a encore plaidé pour la poursuite du soutien à l'Ukraine. Le point avec Eric Manilakis.
L'Amérique est plus forte, nos alliances sont plus fortes, nos adversaires et concurrents sont plus faibles, a déclaré le président américain. Évoquant le poids économique de la Chine, grande rivale sur la scène internationale, M. Biden a affirmé que les dernières prévisions indiquaient que Pékin ne dépassera jamais Washington. À propos de l'Ukraine, il a assuré que le président russe Vladimir Poutine avait échoué à remplir ses objectifs militaires depuis l'invasion en février 2022. Il pensait pouvoir conquérir Kiev en quelques jours. La réalité, le seul qui est allé à Kiev, c'est moi, pas lui, a-t-il dit. Sur la guerre dans la bande de Gaza, Joe Biden a assuré qu'un accord était sur le point d'être conclu pour un cessez-le-feu accompagné d'une libération des otages détenus dans le territoire palestinien. Concernant le climat, le président démocrate a vivement critiqué les climato-sceptiques, assurant que le changement climatique est la plus grande menace pour l'humanité. Joe Biden a conclu son discours en affirmant que sous son mandat, l'Amérique avait utilisé sa puissance pour rassembler des pays, renforçant la sécurité et la prospérité partagée.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nani Talani.
Le gouvernement togolais a annoncé une subvention de 25 milliards de francs CFA en 2025 pour réduire les prix des produits pétroliers et soutenir les ménages face à l'inflation. Les réductions ciblant le super sans-plomb, le pétrole, le diesel et le mélange de thon pourront atteindre 233 francs CFA par litre selon le carburant. En plus, le Togo subventionnera le gaz domestique à hauteur de 9,6 milliards de francs CFA afin d'améliorer le pouvoir d'achat des populations et atténuer les effets des fluctuations des prix internationaux. Le Botswana prévoit de renégocier son projet d'achat d'une participation dans le négociant en pierres précieuses belge HB Antwerp afin d'augmenter sa part de 24% à 49,9% sans coût supplémentaire en raison du ralentissement du marché du diamant. Le ministère des Mines préconise qu'il obtiendra cette plus grande participation pour le même montant initialement proposé. Le Botswana est le premier producteur mondial de diamants en termes de valeur.
Place maintenant au sport avec Yakuba Ouedraogo. Bonjour Yakuba.
Bonjour Rosine, bonjour à tous.
Eric Schell promet du spectacle et une place au Mondial 2026.
Oui, le nouveau sélectionneur du Nigeria, Eric Schell, a promis de faire retrouver aux Super Eagles leur efficacité offensive pour se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. C'était hier lors de sa présentation officielle à Abuja. J'ai toujours aimé marquer des buts, mes équipes marquent toujours et je promets que ce sera pareil avec les Super Eagles, a déclaré l'entraîneur malien.
Je saisis l'occasion d'entraîner la nation noire la plus peuplée du monde. Pour moi, c'est la meilleure nation d'Afrique. Je joue en équipe nationale, je sais ce qu'est une Coupe du Monde, je connais l'importance. Je connais les attentes des Nigériens et j'aime le football offensif.
Sekou Schell, 47 ans, avait conduit le Mali en quart de finale de la CAN 2023. Il a signé un contrat de 2 ans avec pour objectif la qualification du Nigeria pour la Coupe du Monde 2026, co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Le Nigeria est en mauvaise posture actuellement avant-dernier de son groupe de qualification. Après avoir pris 3 points seulement lors de ses 4 premiers matchs, le Rwanda occupe la tête du groupe alors que l'Afrique du Sud et le Bénin comptent également 7 points. En mars, le Nigeria ira défier le Rwanda avant un match à domicile contre la lanterne rouge, le Zimbabwe.
En boxe, Tyson Fury annonce sa retraite.
Le Britannique a fait cette annonce hier, 3 semaines à peine après sa défaite contre l'Ukrainien Oleksandr Yukic à Riyad. Je vais faire court, j'aimerais annoncer ma retraite de la boxe. Ce fut un plaisir, j'ai aimé chaque seconde, a déclaré Tyson Fury, 36 ans, champion du monde des lourds à 2 reprises, dans une vidéo publiée sur son compte Instagram. S'il tient parole, le Britannique de 2,06 m se retirerait avec un bilan remarquable de 34 victoires, dont 24 par KO, pour un nul et 2 défaites, remarquable selon notre consultant Élisée Nkpatin.
24 avant la limite, vous imaginez, c'est quand même un gros morceau. Hein. Espérons qu'il revienne sur sa décision, puisqu'il l'a déjà fait, déjà, on se rappelle. Et puis, il a même avancé hein, que ce n'est pas faute de dépression hein, qu'il est revenu et qu'il faudra qu'il s'entraîne, qu'il faudra qu'il y ait des combats pour lui afin de gérer quand même cette ambiance. Donc, cette fois-ci, il a eu une carrière formidable.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Mounezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le 8 janvier dernier, et à leur demande, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, les hauts commissaires du Canada et de Grande-Bretagne ont été reçus en audience par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga Nji. Selon le quotidien Mutation, ces diplomates sont venus de façon concertée, s'enquérir de la tension qui prévaut depuis plusieurs semaines entre les autorités et certaines organisations non gouvernementales. Le même ministre avait également reçu le nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale. Les débats sont vifs au Cameroun dans la perspective de la tenue cette année de l'élection présidentielle. Pour parler de cet environnement tendu, John Lyndon a joint à Yaoundé Jean-Simon Ongolo, membre du comité central du RDPC, parti au pouvoir, ancien maire et ancien député.
Je pense que toutes ces manifestations des évêques sont une manifestation de la vitalité de notre démocratie. Les évêques font partie du corps social. Et il est normal qu'ils puissent s'inquiéter d'un certain nombre de facteurs, notamment en ce qui concerne la vie des Camerounais, la lutte contre la pauvreté, la corruption, les atteintes à la fortune publique. C'est un peu tout ce plaidoyer et réquisitoire. Ça dépend de là où on se trouve, que les évêques font. Les évêques font partie du corps social. Et je pense que la doctrine sociale de l'Église veut que l'Église intervienne en général dans la vie des citoyens. Les évêques sont avant tout des citoyens. Ce n'est pas une défiance, nous une conjoncture de défiance vis-à-vis de l'autorité de l'État.
Tout cela intervient dans un contexte où 2025 est une année électorale au Cameroun. Vous avez publié une tribune dans le journal Mutation et dans laquelle vous dites que 2025 est une année charnière pour la démocratie camerounaise. Pourquoi vous le dites?
Parce que c'est un exercice qui va être très très important. Nous sommes un peu à la croisée de chemin et vous avez vu que des voix s'élèvent de toutes parts pour revoir la qualité de la loi électorale. Sur ce point précis, je voulais vous dire qu'on ne change pas une loi électorale la veille de l'élection. On a eu le temps de pouvoir faire cette réforme. C'est une réforme importante qui engage l'avenir du Cameroun. On ne peut pas la faire à l'emporte-pièce à la veille de l'élection. Nous devons faire une construction politique. Nous devons lancer des passerelles, discuter avec les uns et les autres pour faire en sorte que cette élection nous fasse sortir de l'obscurité à la lumière.
Vous êtes membre du comité central du RDPC, le parti au pouvoir. Est-ce que le président Paul Biya sera candidat pour un huitième mandat à la tête du pays? Est-ce que ce ne serait pas, si tel est le cas, un mandat de trop?
L'élection présidentielle, c'est une élection qui est la rencontre d'un homme avec le peuple. Je ne suis pas bien placé pour vous dire, il est le seul à pouvoir nous dire s'il sera candidat ou non à la prochaine élection présidentielle. S'il est candidat, nous faisons partie de son parti, nous allons certainement le soutenir. Mais je pense que c'est une élection qui est... Nous sommes vraiment à la croisée des chemins. Il est prématuré qu'on puisse dire aujourd'hui qu'il est candidat. Je pense que c'est surtout le problème qui se pose. Sera-t-il candidat ou non? Il ne nous a pas encore dit qu'il est candidat. Mais vous avez toute cette levée des boucliers là, à la fois de la société civile, des évêques, mais également des politiques d'opposition. Attendons de voir des choses. Est-ce que c'est ça le mandat de trop? Il a répondu à cette question lors d'un passage d'un président français au Cameroun. Il a dit que le moment venu, il donnerait sa réponse. Soit il est candidat, soit il rentre se reposer au village.
Jean-Simon Ongolo, membre du comité central du RDPC, parti au pouvoir, ancien maire et ancien député, joint à Yaoundé.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Des experts et des défenseurs des droits humains réagissent après que les États-Unis ont affirmé le 7 janvier qu'un génocide était commis par les forces de soutien rapide du Soudan et leurs alliés. Un reportage d'Henry Wilkins avec le récit de Yacouba Ouedraogo.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré le 7 janvier que les forces paramilitaires soudanaises de soutien rapide et les milices alliées ont systématiquement assassiné des hommes et des garçons, même des nourrissons, sur une base ethnique déterminée que les crimes commis par les forces de soutien rapide et leurs alliés constituent un génocide. Le chef d'un groupe de défense des droits des Darfouriens a réagi à la nouvelle. Adam Rojal fait partie de la coordination générale des personnes déplacées et des réfugiés du Darfour.
La communauté du Darfour est bien consciente des crimes et des violations commis à son encontre.
Elle considère que ces actes de génocide, de nettoyage ethnique, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité font naturellement partie de sa vie. Pour eux, la reconnaissance par la communauté internationale et les grands pays est une victoire et un pas vers la justice.
Les FSR et les milices qui leur sont associées sont pour la plupart des Arabes ethniques, victimes des Soudanais noirs, en particulier des Massalites. La déclaration est un premier pas vers la justice, estime le groupe de défense des droits. Nicole Wiedersheim, directrice adjointe de Human Rights Watch.
Ils peuvent sentir que leur traumatisme est reconnu. Je ne veux pas minimiser cela.
Blinken a également annoncé des sanctions à l'encontre du dirigeant des FSR et des entreprises liées au groupe paramilitaire. Selon Nicole Wiedersheim, c'est la deuxième fois en 20 ans qu'un génocide est déclaré au Darfour.
Leçon non apprise et pas assez d'actions préventives.
Beaucoup considèrent le génocide comme le crime le plus grave au regard du droit international. Cameron Hudson, du Centre d'études stratégiques et internationales, affirme que les implications juridiques sont importantes.
C'est important d'un point de vue juridique. C'est important d'un point de vue moral.
Blinken a pointé du doigt le commandant des FSR, Mohamed Hamdan Daglo, pour avoir violé les engagements pris en vertu du droit international humanitaire pour protéger les civils soudanais. L'un des dirigeants accusés du génocide de 2004 au Darfour est toujours en procès devant la Cour pénale internationale. Entre-temps, Adam Rojal affirme que les massacres ethniques se poursuivent et que les combats en cours dans certaines parties du Darfour ont entraîné une famine.
Les tueries directes à l'intérieur des camps, dans les villes et les quartiers, et la famine et la faim, tout cela continue.
Lorsqu'on lui a demandé de répondre à ces accusations, un porte-parole des FSR a fourni à la VOA une déclaration largement diffusée sur les réseaux sociaux. Cette déclaration n'a aucune valeur ni aucun impact sur la situation actuelle au Soudan, mais risque de compliquer la crise soudanaise. La déclaration ne nie pas les allégations de génocide.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Au Togo, le suicide d'une fillette de 13 ans donnée en mariage par son père en remboursement d'une dette de 127 000 francs CFA relance le débat sur la persistance du phénomène de mariage forcé des enfants dans le pays, malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation sur l'interdiction de la pratique. Le décès de l'enfant suscite l'émoi, l'indignation et la colère au sein de l'opinion nationale et des acteurs de défense des droits des enfants. De Lomé, notre correspondant Kossi Oussou.
Originaire du village d'Asrama, à quelques centaines de kilomètres de la capitale Lomé, la petite Justine, âgée de 13 ans, exaspérée par les violences physiques, émotionnelles et sexuelles dont elle est l'objet, s'est administrée une substance hautement toxique pour mettre fin à ses jours. Abigail Adablé, présidente du mouvement Enfants, pas épouse, exprime son indignation et sa grande tristesse face au drame.
Le décès tragique de la petite Justine vient que souligner encore une fois la continuité de cette pratique rétrograde inadmissible dans nos sociétés. Le taux de mariage d'enfants atteint un seuil critique et aujourd'hui j'interpelle tous les acteurs à amener des actions concrètes et cruciales pour combattre ce fléau.
Anne-Colette Pedji, la directrice exécutive de l'ONG Wildaf Togo, qui porte le projet dénommé Agir pour l'abandon des mariages d'enfants au Togo, n'en revient pas.
Je peux dire que j'éprouve des sentiments d'indignation, de colère et de révolte. Ce n'est vraiment pas acceptable qu'en ce 21e siècle, qu'il y ait encore ces pratiques-là au Togo. Nous faisons des efforts, que ce soit la société civile, que ce soit l'État, mais le phénomène persiste.
En effet, les projets de lutte contre le phénomène et les actions de sensibilisation sur le terrain ne manquent pas. Anne-Colette Pedji pense qu'il faut changer de stratégie de lutte.
Nous devons maintenant toucher les cibles elles-mêmes, parler aux fillettes, parler aux adolescentes, leur dire comment elles peuvent échapper à ces drames, leur faire voir que c'est possible de dire non. Si Justine savait qu'elle pouvait se rendre à la gendarmerie, qu'elle pouvait aller au bureau d'une organisation de la société civile, je pense qu'elle serait aujourd'hui avec nous.
Thierry Waki, secrétaire général du Forum des organisations de défense des droits de l'enfant au Togo, estime qu'il faut revoir aussi certaines normes sociales qui favorisent le mariage des enfants.
Aujourd'hui, il faut que nous renforcions vraiment le travail de déconstruction des normes. C'est très important parce que c'est la persistance des normes sociales, culturelles et de genre qui renforce ces idées. Et nous devons comprendre que l'enfant, la jeune fille, la mariée de sitôt, c'est la priver de son avenir, de son développement.
Activiste des droits des enfants, Edwige Apedo plaide pour une tolérance zéro de ces pratiques qui mettent en danger la vie des enfants togolais.
Le Togo dispose des lois, mais dans l'application, je pense que la rigueur y manque. Et donc, il faudrait que la répression soit systématique et rigoureuse avec des sanctions sévères contre ces personnes qui organisent ou même qui facilitent ces mariages des mineurs.
Dans un communiqué, la Commission nationale des droits de l'homme du Togo a rappelé l'interdiction de mariage d'enfants au Togo et invité tous les acteurs à dénoncer les auteurs et complices de ces actes afin d'éradiquer ce fléau dans le pays. Kossi Oussou, Lomé pour VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Ici aux États-Unis, lors de sa campagne présidentielle, Donald Trump a cité Aurora, ville de l'État du Colorado, comme un exemple emblématique de la criminalité imputée aux immigrés, promettant d'y remédier par des expulsions massives. Aujourd'hui, le gouverneur du Colorado affirme qu'il est prêt à collaborer avec les autorités fédérales pour expulser les membres de gangs, tout en s'opposant fermement à des projets plus larges d'expulsion de migrants. Sur place, le reportage de Shelley Schlender, récit Jacques Aristide.
Près de 20% des habitants d'Aurora, une banlieue de Denver, sont des immigrés. Des responsables locaux mettent en avant leur éthique de travail et leur diversité culturelle comme des atouts majeurs pour la communauté. Cependant, une vidéo tournée en août dernier a braqué les projecteurs nationaux sur la ville lors de la campagne présidentielle. On y voit des hommes armés allant de porte en porte dans un complexe d'appartements à bas coût. Certains de ces hommes, dont la majorité a été identifiée depuis comme des immigrants sans papier, sont soupçonnés d'avoir des liens avec un gang de prisonniers vénézuéliens. Réagissant à ces images, Donald Trump, alors candidat, s'est rendu à Aurora à moins d'un mois du scrutin. Lors d'un rassemblement, il a galvanisé ses partisans en annonçant un plan de déportation massif qu'il a baptisé Opération Aurora.
Je vais sauver Aurora et chaque ville qui a été envahie et conquise. Nous mettrons ces criminels vicieux et sanguinaires en prison ou nous les expulserons de notre pays.
En décembre, après une violation de domicile et un enlèvement survenu dans le même complexe d'appartements, les services d'immigration américains ont arrêté 16 migrants vénézuéliens en situation irrégulière, soupçonné d'être affilié au gang Tren de Aragua. Malgré cela, le maire et le chef de la police d'Aurora continuent d'affirmer que les gangs criminels ne représentent qu'une infime partie de la communauté immigrée. Pour Lamine Khan, un militant communautaire et membre de la Colorado People's Alliance, cette stigmatisation des immigrés affecte négativement la vie de tous les habitants.
Quand j'essaie de dire à une famille immigrée, votre enfant peut encore aller à l'école, vous pouvez toujours aller à votre église locale, ils me répondent, mais si je vais à l'église, est-ce que je risque d'avoir des ennuis? Mon enfant pourrait-il être séparé de moi s'il va à l'école?
Trump a dit à ses partisans à Aurora que ces immigrés faisaient partie des pires personnes au monde.
Ils viennent des cachots, des prisons et des asiles psychiatriques du tiers-monde.
Sous l'administration de Jared Polis, le Bureau des Nouveaux Américains du Colorado aide les immigrés à trouver un emploi, inscrit tous les enfants immigrés dans des écoles publiques gratuites et propose des assurances santé à coût réduit, même pour les sans-papiers. Ces programmes sont financés par des fonds de l'État sans recours à l'argent fédéral. Au sujet de l'opération Aurora, Jared Polis a réagi sur CNN.
Avons-nous besoin de plus d'aide fédérale pour assurer la sécurité de nos communautés et poursuivre les criminels, qu'ils soient immigrés ou américains? Absolument. Mais quand il s'agit de s'attaquer à des familles travailleuses qui sont de facto américaines et jouent un rôle crucial dans notre économie, que ce soit dans l'agriculture ou le bâtiment, nous ferons tout ce qui est légalement possible pour protéger notre prospérité économique et repousser ces attaques.
Le gouverneur Polis a conclu en espérant collaborer avec l'administration Trump pour venir en aide à tous les habitants du Colorado, y compris les immigrés.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, vous étiez avec Rosine Monezero, à la mise en onde, Georges Léonard Sagnot. Passez une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.